merci d'être nos yeux, nos oreilles. On va aller la rejoindre tout de suite parce qu'elle a un horaire quand même assez chargé. Son nom, c'est Catherine Genticor. Elle est députée du PQ d'Enterrebonne. Madame Genticor, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce mardi ensoleillé?
Mais écoutez, le soleil est toujours au moral, donc très bien, très occupé, évidemment, vous l'avez dit, mais on lâche pas.
On parle aujourd'hui des bracelets anti-rapprochement. Il y avait des articles, si je me trompe pas, c'était dans la presse dans les derniers jours, où on parlait justement des gens qui étaient violents à l'égard de leur conjointe, des gens qui étaient capables de détourner les raisons d'être du dispositif pour traquer leur ex-conjointe. Quand même assez hallucinant que certains hommes soient prêts à aller jusqu'à utiliser des moyens technologiques pour retrouver leur ex-conjointe.
Ça n'a aucun bon sens. Puis, j'aimerais quand même dire qu'on est assez précurseur là, avec l'instauration des bracelets anti-rapprochement, puis c'est efficace dans plusieurs des cas. Mais là, les cas s'accumulent où ce n'est pas efficace. On est rendu à au-dessus de 5000 signalements, je pense, 5000 bris de conditions en lien avec ces fameux bracelets anti-rapprochement. Donc, il ne faut pas que l'instauration de cette mesure-là, des bracelets anti-rapprochement, nous dégage de nos responsabilités comme société, dégage les responsabilités du judiciaire. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on demande, c'est d'être beaucoup plus précautionneux quand vient le moment de décider de libérer ou non un homme qui a été violent. Parce que là, le problème, on le voit, c'est que c'est souvent ces hommes-là, ce sont des multirécidivistes. Ouais. C'est souvent ce qu'on voit dans ces cas-là. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont accusés de violence conjugale sur une de leurs conjointes. Et là, ils utilisent évidemment ce dispositif-là pour retracer leur conjointe.
En gros, ce qu'ils font, Mme Genticor, c'est qu'ils ont le bracelet à la cheville, j'imagine, et la dame est reliée par ce bracelet, par son cellulaire. Donc, si la personne rentre dans un cercle donné, ben là, la dame est informée, puis lui aussi, son bracelet semble sonner, c'est bien ça?
Très exactement. Donc, lui, pour savoir qu'il est trop près de la personne qu'il ne doit pas approcher, son bracelet se met à sonner. Mais quand on a un homme qui est acharné, un homme qui est prêt à tout pour retrouver sa victime, évidemment qu'il peut utiliser ce dispositif-là pour la retracer, puis pour après ça être violent de nouveau avec elle. Donc, c'est vraiment important de faire une meilleure évaluation du risque de récidive et du risque de violence de ces hommes-là, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on en échappe dans ce contexte-ci. Il faut s'assurer que les hommes qui ont un risque élevé de récidive restent derrière les barreaux ou soient mis derrière les barreaux. C'est la protection de la femme qui doit primer avant tout. Donc, quand on est rendu au-dessus de 5000 bris de conditions en lien avec ces bracelets-là, d'ailleurs, on a fait adopter au Parti québécois à l'unanimité une motion dans les derniers mois pour justement s'entendre sur le fait de renforcer les mécanismes autour de ces bracelets anti-rapprochement-là, puis s'assurer qu'on les fasse porter aux hommes sur qui ça a un réel effet positif. Quand il y a des hommes qui sont acharnés, qui ne lâcheront pas le morceau, bien, il faut trouver autre chose pour s'assurer de protéger nos femmes, puis ça me semble être complètement logique.
Dans la presse d'hier, on parlait du cas d'Andrew Sacrani qui a fait les manchettes l'automne dernier. C'est un multirécidiviste, un violent envers les femmes. Il a menacé de trancher la gorge de son ex-conjointe depuis, 2023, après une première libération. Ben lui, il avait justement son bracelet anti-rapprochement, puis il s'amusait à faire sonner son bracelet, Jeff, anti-rapprochement, à 93 reprises en 10 semaines.
Et là, son ex-conjointe est obligée de changer d'identité, changer complètement de lieu, complètement retirer les enfants de leur milieu naturel. C'est catastrophique comme situation.
C'est pas normal que la victime paye.
Ben non, exactement. Puis dans le fond...
Comment on peut... déjà que cette situation-là est assez difficile pour les femmes. Il y a toutes sortes de paramètres à prendre en compte. C'est traumatisant pour la femme, pour ses enfants, bien souvent, qui viennent avec elle. Comment on peut laisser ce fardeau-là de plus sur ses épaules? Donc, il faut s'assurer que ces hommes-là restent derrière les barreaux, faut assurer la sécurité de ces femmes-là. Déjà que c'est assez compliqué puis assez éprouvant pour elles. Il y en a même une, là, récemment, dans les journaux, on l'a vu, elle a dû changer de pays parce que l'homme avait eu un premier bris de condition, il avait réussi à retirer son bracelet anti-rapprochement, on lui en avait remis un autre, puis la femme a dit, ben moi, je change de pays carrément, je peux plus vivre ce stress-là.
Avec le registre des hommes violents, pensez-vous que ça va aider un peu plus?
Mais en fait, ce que ça va permettre de faire, ça, c'est que ça va permettre aux femmes d'être informées puis d'avoir une source pour vérifier les antécédents du nouveau conjoint qu'elle fréquente. Donc, tu sais, ça peut apporter une certaine clarté. Puis, mais après ça, quand tu es déjà dans une relation avec quelqu'un, quand tu as déjà entrepris un lien avec quelqu'un, c'est difficile de reculer. Donc, je pense qu'il faut juste mettre toutes les mesures en place. C'est la combinaison des différentes mesures qui vont faire en sorte que nos femmes vont être protégées au Québec. Mais ça passe beaucoup, à mon avis, par le judiciaire. Là, terminer les peines bonbons, là, il faut se sortir de ça. Quand on a un homme qui brise ses conditions une fois, il faut que ce soit pris en compte dans les conséquences qu'il y aura pour lui. Il faut absolument qu'on resserre ça.
Mais ça, faudrait modifier le droit criminel au fédéral. On n'aurait pas le choix. Est-ce que nous, au Québec, on peut faire bande à part avec des sentences plus élevées pour les hommes qui sont violents?
Ben c'est quand même nous qui administrons notre loi dans certaines mesures. Fait que, y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place ici au Québec qui vont le plus possible resserrer ces règles-là.
Mais comment on pourrait le faire concrètement en justice, là?
Mais il faudrait s'y pencher, mais d'abord de s'assurer que ces hommes-là soient surveillés de plus près. Et on a coupé aussi dans l'accompagnement qu'on donnait aux femmes victimes dont les hommes portent un bracelet anti-rapprochement. Il y a toutes sortes de coupures qui sont faites par le gouvernement du Québec actuellement.
Ouais.
Donc, moi, je pense que c'est primordial qu'on ait la rétroaction de ces femmes-là et qu'on sache comment elles le vivent et qu'on voit est-ce qu'elles se sentent encore menacées, est-ce qu'elles sentent que cet homme-là tente encore de les approcher. Si on réduit le suivi qu'on fait auprès d'elles puis qu'on peut pas avoir la rétroaction, ça nous aidera pas à avoir des mesures en place qui sont efficaces, par exemple. Donc oui, un suivi auprès de ceux qui sont violents puis s'assurer qu'ils respectent leurs conditions, mais après ça, suivi aussi auprès de ces femmes-là, on peut pas couper dans ces suivis-là. C'est leur rétroaction à elles dont on a besoin pour améliorer les choses puis s'assurer qu'elles se sentent en sécurité, parce que c'est elles d'abord qu'on veut protéger là-dedans. Donc ça vient avec un paquet de responsabilités de mettre en place ces bracelets anti-rapprochement-là, et moi je pense qu'il faut en faire encore plus et non pas couper dans l'accompagnement qui vient avec ça. Il faut s'assurer que la mesure fonctionne, puis que nos femmes soient très bien accompagnées là-dedans, puis qu'elles se sentent écoutées là-dedans aussi, parce que ultimement c'est pour elles qu'on fait ça, puis pour leurs enfants aussi.
Donc concrètement, du côté du PQ, on ferait en sorte qu'il y ait des sentences plus sévères, moins de gens à risque qui portent ce bracelet-là, puis on ouvrirait plus de refuges justement pour les femmes violentées.
Oui, puis ça j'en ai parlé à plusieurs reprises là, tu sais, on manque de place dans les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Actuellement, les ressources doivent dire non une fois sur deux. Elles doivent refuser 50% des femmes qui auraient besoin d'accompagnement. Dans le CALAC, ici, dans ma région, les femmes ont quelques rencontres d'urgence, là, puis après ça, elles doivent attendre des fois jusqu'à un an pour avoir un accompagnement. Ça, c'est des violences sexuelles, mais on s'entend que ça entre aussi dans le lot.
Bien sûr.
Donc, il faut renforcer le communautaire. Si on en a parlé, il faut renforcer le financement à la mission. Souvent, ces organismes-là agissent comme première ligne en ce moment avec ces femmes-là. Donc, il faut s'assurer de les soutenir, de faciliter au maximum leur intervention. Puis, parallèlement à ça, bien, absolument, militer puis pousser pour que mettre fin aux sentences bonbons puis s'assurer que ces hommes-là, qui sont des multirécidivistes et qui représentent un risque réel, puis qu'on peut évaluer, je pense, il faut être beaucoup plus scrupuleux dans notre façon d'évaluer les risques de violence et de récidive de ces hommes-là. Donc, je pense qu'il y a plus à faire. On a mis des bonnes choses en place, mais il y a plus à faire, puis il ne faut pas laisser tomber nos femmes.
Il faudra travailler de concert. T'sais. S'il y avait des élections demain matin, ce qu'on voit, c'est que c'est le PQ qui prendrait le pouvoir. Donc, le nouveau ministre de la Justice pourrait travailler de concert avec son homologue au niveau fédéral pour modifier des trucs dans la loi pour avoir des sentences plus sévères, puis avec des bons juges ici qui pourraient créer des jurisprudences pour les hommes violents avec des pénalités, avec des peines plus sévères, ça serait déjà un bon pas de l'avant. Maintenant, j'aime ça, moi, quand on travaille en amont puis qu'on amène des solutions. Vous l'avez dit, plus d'argent pour aider les femmes qui sont victimes d'hommes violents. Y a-t-il assez d'argent pour aider ces gars-là qui, parfois, sont eux-mêmes d'anciennes victimes, qui ont décidé de faire d'autres victimes, des gars qui sont en difficulté? Pensez-vous qu'on pourrait travailler en amont avec ces hommes-là? Parce que je le sais qu'il y a des maisons de thérapie qui aide ces hommes violents-là, mais ce qu'on me dit quand je parle avec des thérapeutes, c'est que l'argent n'est pas disponible pour accueillir tout le monde non plus.
Le Parti québécois veut faire un grand virage vers la prévention en toute chose. Donc, prévention en santé, mais la prévention en santé, pour moi, c'est large. recherche. Donc, il y a la santé physique, évidemment, mais il y a la santé émotionnelle et la santé psychologique également. En ce moment, ce qu'on fait beaucoup partout dans notre système, c'est guérir. C'est amener des pilules, c'est amener des solutions une fois que le mal est fait. Donc, évidemment que je pense qu'on peut en faire plus pour ces hommes-là. On doit en faire plus pour ces hommes-là, les aider à gérer leurs émotions. Souvent, ces hommes-là, c'est des hommes qui ont vécu de la violence dans leur enfance. C'est un cycle qu'il faut briser. Donc, pour moi, ça revient à ce que je disais par rapport aux communautaires. Il faut absolument déplacer le financement par projet vers le financement à la mission et s'assurer que ces organismes-là qui aident les hommes soient financés également. Donc, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut en faire plus. Je pense qu'on doit en faire plus. Puis, à chaque moment où on a l'occasion de faire de la prévention plutôt que de guérir, les Québécois seront gagnants là-dedans.
Hein. C'est rare que je m'entende avec des politiciens et des politiciennes, mais là, je peux rien dire de plus.
Ah non, mais moi, le financement à la mission des organismes communautaires pour entrer une quinzaine d'années dans le communautaire, faut toujours réinventer un nouveau projet. Bravo, faut financer les gens à la mission.
Ce qui est fou avec ça, là, c'est que la plupart des organismes, puis on en a rencontré beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup, Marie-Carmen Laflamme en a rencontré beaucoup, puis le chef aussi a rencontré des organismes, ils ne nous demandent pas nécessairement plus d'argent. Évidemment, éventuellement, il faudra bonifier le budget.
Oui.
Ce qu'ils demandent principalement, c'est revoyer notre mode de financement. Faites confiance aux organismes.
Clairement.
C'est eux qui connaissent leur terrain. Donc, plus d'autonomie à ces organismes-là. Revoir le mode de financement. Puis déjà, ça va grandement les aider. Puis évidemment, comme en toute chose, réduire la paperasse. On va réduire la paperasse pour nos PME, mais il faut aussi réduire la paperasse pour ces organismes-là parce qu'en ce moment, ils payent des ressources qui n'ont pas les moyens de payer pour remplir de la paperasse puis faire de la réduction
de compte. Dans un organisme que je gérais, c'est une ressource temps plein qu'on avait engagée juste pour la paperasse gouvernementale.
Alors que toutes les ressources devraient aller au service direct à la
personne. Oui, exactement. Si je peux me permettre un petit débat aussi ou un petit conseil, faut reconnaître aussi les organismes qui font une double mission. Et je m'explique, par exemple, un organisme qui va gérer les camps de jour, mais qui va gérer une banque alimentaire en même temps, va être financé pour les camps de jour, mais pas pour la banque alimentaire parce qu'il y a un financement pour les camps de jour. C'est un peu... il est désavantagé d'offrir plus de services à la population.
C'est intéressant.
Il y a clairement un ménage à faire là-dedans, puis c'est ce qu'on s'engage à faire.
On lâche pas. Merci.
Merci à vous.
Salut, bye-bye. Catherine Genticor, qui est députée du Parti québécois dans Terrebonne. On parlait du dossier là, concernant les fameux bracelets anti-rapprochement. Certains agresseurs profitent de ces bracelets anti-rapprochement-là pour continuer de faire de la violence, continuer de stresser les femmes.
C'est épouvantable. Ça sonne. Là, la femme, elle dit « OK, c'est beau, je viens de changer de ville, mais il m'a retrouvé. Je m'en vais où? Je fais quoi? »
93 fois où tu paniques. T'es dans un centre d'achat, puis là, ton téléphone sonne en disant que ton agresseur est proche de toi. T'imagines-tu le stress? T'es doublement victime. Puis là, quand t'es obligé de changer de ville parce que t'es écœuré d'être stressé...
Changer de ville? Changer de nom?
Non, c'est juste pas normal.
Dénaturer les enfants?
Hey, ne manquez pas le nouveau podcast original de Boulevard 102.1, Les grands événements de Québec. C'est un podcast qui est intéressant. C'est avec mon chum Denis qui est là le lundi. On diffusait hier d'ailleurs le troisième épisode du départ des Nordiques avec Denis Gravel et Stéphane Cadarette. Le père de Stéphane Cadarette qui a suivi les Nordiques du début de carrière dans
Claude
les matchs jusque dans la Ligue nationale de hockey et ça jusqu'en 1994. Donc on replonge dans les événements qui ont poussé les Nordiques à connaître les plus belles années de leur histoire à Denver, aussi au Colorado. On parlait un peu de ça, donc salutations à toute la gang. Le podcast sera disponible d'ailleurs sur blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard, si ce n'est pas déjà fait. On va faire une courte pause, si vous avez des choses à nous dire, c'est le temps de nous texter, 88-971-101. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est plein soleil sur Québec, on est gâtés.
Marceau